Bulle d'histoire. Stéphane Dubreuil.
Wow.
Grande et petite histoire dans l'œil des auteurs de bandes dessinées.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle bulle d'histoire sur Art District Radio. Pour la première fois, on va parler de bande dessinée jeunesse, enfin on pourrait dire plutôt même bande dessinée familiale, plutôt que jeunesse, on va un peu raffiner la définition. Je suis avec Vincent Dugommier, qui est le scénariste d'une série, on peut dire à succès, mais qui est beaucoup plus qu'un succès de librairie, qui est Les Enfants de la Résistance. On se voit pour la sortie du tome 9. On est au Lombard, chez ton éditeur. Première question de toutes mes bulles d'histoire, qui es-tu ?
Alors bonjour à toutes et à tous, je suis Vincent Dugommier donc, et je suis scénariste de bande dessinée, vraiment spécialisé dans la bande dessinée jeunesse et familiale plutôt, oui. Effectivement familiale. J'aime bien écrire pour les enfants et en me disant que les parents et les grands-parents lisent également.
Et pourquoi tu aimes écrire pour les enfants, des bandes dessinées pour les enfants ? Qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui t'attire, en quoi tu trouves du plaisir et de la satisfaction à écrire pour les enfants?
J'aime beaucoup écrire pour la jeunesse parce qu'on peut utiliser une forme de candeur qui permet d'aller très très loin dans des sujets qu'on n'aborderait peut-être pas forcément si on s'adresse aux adultes. Je parle d'une bande dessinée classique un peu mainstream et j'aime assez bien ce côté détendu, de parler de pas mal de choses et d'être aussi un petit peu explicatif, non pas didactique, mais vraiment explicatif, parce qu'on s'adresse à la jeunesse, et puis en grattant un petit peu une information, on se rend compte qu'on peut aller vraiment très très loin. Si on parle de la résistance à des adultes, on s'imagine qu'ils savent déjà plein de choses. Quand on s'adresse aux enfants, on peut vraiment redémarrer à la base et expliquer pourquoi on résiste, et pas forcément comment on résiste. Et donc, c'est aussi une inclinaison naturelle, je suis intéressé par
ça. Oui, puis ça rentre aussi dans une tradition de la BD franco-belge, qui n'a pas disparu complètement, faut pas exagérer, mais qui s'est un peu transformée. Il y a beaucoup de choses sur la guerre et sur la résistance sont devenues des BD adultes. Mm-hmm. Ça, c'est encore une tradition qui est importante de faire perdurer. Quoi.
Oui, complètement. C'est vrai que la bande dessinée jeunesse, ainsi que la littérature jeunesse, s'empare de beaucoup de sujets beaucoup plus actuels, modernes, ou compliqués, ou chauds, vraiment à expliquer. C'est vraiment un bon support. Enfin, c'est quelque chose de naturel qui ne s'explique pas vraiment non plus, en fait. Hein. C'est vraiment, moi, je me rends compte que je suis très à l'aise, et je ne suis pas tellement à l'aise si je devais faire une bande dessinée purement pour un public plus âgé. Je l'ai fait quelques fois. Je suis moins dans mes repères. Ouais.
Alors, Les Enfants de la Résistance, est-ce que tu peux dire aux gens qui nous écoutent, qui ne connaissent pas forcément la série, comment ça commence et comment vous avez eu l'idée et qu'est-ce que ça raconte?
Oui. Alors, ce que ça raconte vraiment l'occupation dans un village en France. On est un peu en Bourgogne comme ça, c'est pas hyper précis. C'est un village fictif et il y a trois enfants qui décident d'agir, qui observent l'occupation, ils vivent l'occupation, ils observent l'occupation, et c'est venu vraiment de notre goût d'écouter nos parents et nos grands-parents parler de leur enfance dans la guerre et de l'occupation. Et on voulait vraiment faire une sorte de témoignage, une transmission, vraiment faire un outil de transmission de la mémoire. Et on voulait vraiment, au tout départ, vraiment raconter l'occupation à hauteur d'enfant, mais dans la discussion qui a duré 10 minutes, on s'est rendu compte qu'on avait chacun un grand-parent résistant, et on s'est dit on va faire des résistants, nos enfants seront des résistants et ce sera les enfants de la résistance. Et donc l'idée générale s'est vraiment mise en place comme ça très simplement. Et puis ensuite, on a vraiment réfléchi à notre point de vue, on s'est documenté et là on a vraiment développé le projet. On a développé ce projet pendant un an et demi environ, en se voyant régulièrement.
Parce que ce qui est intéressant dans votre projet, c'est que c'est à la fois c'est des enfants. Donc on a trois enfants, on pourra revenir un peu sur les caractères, ouais. Parce que c'est construit, c'est pas des enfants choisis au hasard, mais c'est à la fois des enfants qui ont des préoccupations d'enfants, qui sont des enfants, et qui ont aussi des préoccupations d'adultes, puisqu'ils vont agir comme des résistants. Ça, j'ai trouvé ça assez neuf, j'ai jamais vu ça ailleurs, c'est intéressant.
Alors, moi, je suis assez persuadé que si on gratte un peu dans les téléfilms, il y a eu beaucoup de téléfilms sur l'occupation, on devrait pouvoir trouver une histoire avec des enfants qui se disent « Tiens, on va faire quelque chose, on va agir ». Alors là, on a poussé le bouchon un peu loin.
Oui, parce qu'ils font un réseau, carrément.
Parce que pour finir, ils sont pris à leur propre piège et ils sont poussés de continuer et ils font carrément un réseau. Donc là, effectivement, là, on va nettement plus loin. Mais l'idée, c'était effectivement de montrer la prise de conscience des enfants. Ils sont en vacances, ils ont le temps pour réfléchir, ils ont des clés aussi de compréhension un peu fournies par leur milieu familial, je dirais. Et ils observent l'apathie des adultes et ils se disent « On va les bousculer, on va les pousser à désobéir ». Donc c'était vraiment la mécanique qu'on voulait installer dans la série.
Alors qui sont ces trois enfants?
Alors au départ il y a François et Euseb, qui sont deux copains du village. François c'est un garçon de ferme, il a peur de rien, c'est le plus fonceur. Il est même pas courageux en fait, il est inconscient parce qu'il va au devant de tous les dangers. Il est très révolté. Il y a Euseb, qui est son copain, qui est le fils de l'instituteur. Il est beaucoup plus réservé. Mais je le trouve extrêmement courageux parce qu'il ose affronter sa peur et rentrer en résistance malgré tout. Et puis il découvre un troisième personnage qui est une petite fille qui s'appelle Lisa. Alors je pense que je peux dévoiler les secrets qui entouraient ce personnage dans le tome 1. Mais bon, le tome 1, il a 10 ans. C'est qu'au fur et à mesure du tome, il se rend compte que cette petite fille qui est en réalité une réfugiée de l'Exode, en fait c'est une Allemande qui était une réfugiée avec ses parents. Ses parents sont morts sur les rues de l'Exode et c'était une famille anti-nazie qui a dû fuir l'Allemagne. Et donc ils se rendent compte que dans leur trio de résistance, il y a une petite Allemande. Et cette petite Allemande décide de rentrer dans la résistance française. Et elle a ceci de particulier, c'est que elle résiste non pas contre son peuple, mais contre le nazisme. Et c'est de loin le personnage le favori de tous les lecteurs. Donc le personnage favori des lecteurs, c'est la petite Allemande, alors qu'on raconte la résistance en France. Donc on est très contents, Benoît et moi, d'avoir pu apporter quelque chose d'universel et d'humaniste.
Parce qu'elle elle résiste, elle est très courageuse, puisqu'elle se fait engager, elle travaille au contact des nazis. Enfin, c'est un sacré personnage, quoi.
Ah, c'est un sacré personnage, oui, complètement. Elle ose vraiment des choses absolument incroyables. Bon, ça c'est l'avantage de la série jeunesse, c'est qu'on a envie de croire à tout ce côté vraiment héroïque des jeunes personnages. Maintenant, ils côtoient le danger et les lecteurs, souvent les jeunes lecteurs, ils ont peur pour les personnages. Ils sont persuadés qu'un des trois héros principaux, là, il pourrait mourir dans l'aventure.
Dans le tome 9,
ça
chauffe quoi.
Ça chauffe quand même beaucoup. Ça chauffe beaucoup. Voilà ces trois personnages. Après, il y a toute une autre galerie de personnages.
Oui, il y a les notables du village, il y a des gens qui sont là, qui sont juste des habitants, il y a des nazis. Dans le tome 9 arrive la milice. Voilà, c'est aussi un univers très, très cohérent, très historique.
Oui, alors très documenté, c'est un microcosme, hein. C'est un petit village, mais ce village représente un petit peu toutes les facettes de l'époque. Des gens qui sont résistants, qui seraient résistants, mais qui n'agissent pas, qui ont l'esprit. Non, si on a l'esprit, on agit, mais voilà, qui ne sont pas d'accord avec les situations, mais qui ne font rien. Puis d'autres qui s'adaptent à la situation, puis certains qui collaborent. Puis d'autres qui collaborent et puis qui reculent parce qu'ils se disent « Non, ça ne va pas, je ne suis plus d'accord avec cette situation. » Et bien sûr, il y a l'occupant. Puis chez les occupants, il y a un officier la logistique qui se rend bien compte qu'il aimerait bien être ailleurs que là. Mais il y a les soldats qui obéissent et les enfants se posent des questions sur le fait que, ben oui, quelque part, tous ces soldats sont en train d'obéir aux ordres. On peut se poser la question sur toutes les armées du monde, en fait. Hein.
Oui, parce que c'est de la littérature jeunesse, mais les personnages sont très complexes. Ce n'est pas des personnages simplistes, quoi.
Non. On ne voulait pas ça, et puis ils ne peuvent pas être simplistes parce que la guerre les fait, leur fait découvrir leur complexité interne, parce que quand on est dans une situation pareille, on doit prendre position, on doit réfléchir, et soit on ferme tout et on attend que ça passe, soit si on commence à observer, effectivement, les personnages s'enrichissent naturellement des événements qu'ils vivent. Leur enfance est volée, parce qu'ils font des trucs d'adultes, leur enfance est volée, c'est la guerre, leur enfance est volée, après c'est leur adolescence qui est volée.
Oui, parce qu'ils grandissent avec les tomes.
Ils grandissent avec les tomes, effectivement. Et Et puis, il y a Euseb et Elisa qui décident que ben, on va pas tout leur voler. Et ils ont une histoire d'amour. Mmh. Et c'est important. Voilà, ils disent, la guerre ne volera pas tout. Donc, c'est aussi une forme de résistance de se dire, c'est pas parce que c'est la guerre et que c'est pas drôle qu'on a... On n'a pas le droit d'être heureux à nous deux. Si on est attiré, qu'on a envie d'être amoureux, ben on est amoureux. Pour
l'autre chose qui est intéressante, c'est que c'est à la fois une bande dessinée sur la guerre, sur la résistance, mm-hmm. mais moi, je ne suis pas le seul, hein, j'ai vu aussi beaucoup une bande dessinée sur l'amitié, sur la solidarité, sur cette forme d'humanité qui fait qu'on ben, on est plus fort.
Oui. Alors effectivement, c'est quelque chose qui ressort très très souvent... comme thématique sur les enfants de la résistance, c'est l'amitié et la solidarité. Parce que c'est trois amis, et puis ils sont solidaires, parce qu'ils agissent entre amis, mais ils agissent avec leur solidarité pour des gens qu'ils ne connaissent absolument pas, parce qu'ils agissent pour le bien commun. Et donc, effectivement, ça c'est vraiment très important, et c'est ce qu'a fait la résistance. Le but de la résistance était d'aider à la libération du territoire pour réinstaller la République et réinstaller un état de droit. Et ça demande un vrai sacrifice et beaucoup d'amour de son prochain, de son peuple et même de tous les peuples quelque part, puisque la résistance, elle sera très multiculturelle. Donc ces idées de solidarité, je trouve qu'elles sont vraiment importantes à raconter en filigrane dans les enfants de la résistance, parce que c'est quand même une belle chose et c'est quelque chose d'intéressant pour les jeunes aujourd'hui de voir que en étant solidaire, on aura certainement plus de choses bénéfiques qu'en ne l'étant pas.
Oui, qu'en plus, ce sont des gens qui sont dans une situation quand même un peu plus difficile que ce qu'on vit nous actuellement.
Ça, c'est clair.
Même si la situation n'est pas simple, mais on n'est pas en guerre, on n'est pas occupé par des nazis.
On peut dire ce qu'on veut, on peut agir sans risque, franchement, effectivement. Mais la situation n'est effectivement pas drôle du tout d'un point de vue politique. Et on peut toujours espérer que ce travail de mémoire puisse au moins ouvrir un petit peu les yeux à une génération, là. Donc, c'est l'espoir. Alors, est-ce que ça sert à quelque chose ou pas? En tout cas, il faut occuper le terrain de la mémoire et pas laisser les concepts de résistance à des gens qui ont des courants politiques qui en réalité n'en faisaient pas partie pendant la guerre. Donc c'est important d'être clair et de bien indiquer les choses dans notre travail, et le tome 9 à ce niveau-là est particulièrement clair.
Ce qui est, l'autre chose qui est intéressante, c'est on est en Europe, hein, la France est un pays d'Europe, on entend ton accent et aussi ton co-auteur, vous êtes belge.
Oui.
Donc la Belgique a été occupée, même un peu plus que la France, c'était encore une autre façon d'occuper, difficile. Vous avez situé votre village en France, vous êtes belges tous les deux. Comment vous faites le lien entre la Belgique et la France, la résistance belge, la résistance française? Parce que donc il y a eu des résistants belges, hein, très courageux et très, très vaillants.
Mm-hmm. Vraiment, avoir situé le décor en France, c'était vraiment quelque chose de tout à fait naturel pour nous. Ça n'a même pas été une discussion, parce qu'on était vraiment très attirés à l'idée de parler de cette collaboration d'État par le maréchal Pétain. C'était vraiment ça qui nous intéressait.
Juste, ce qu'il faut dire aux auditeurs, c'est que la Belgique occupée n'a pas de gouvernement belge. C'est une administration allemande.
Exactement.
Donc c'est autre chose. Il n'y a pas de collaboration, entre guillemets.
Voilà, il y a une collaboration en Belgique, et évidemment, mais il n'y a pas une collaboration d'État. C'est-à-dire que comme vous l'avez dit, il y a un officier allemand qui va administrer la Belgique pendant 4 ans, ainsi que l'Artois et la Flandre française. Par contre, ce qu'il y a de particulier, c'est que la Belgique a été entièrement envahie en 14-18 et a déjà une histoire très liée à la résistance. Tandis que cette découverte de la résistance est beaucoup plus forte en France en 40. Le territoire envahi en 14-18 est plutôt faible. Il y a eu de la résistance aussi, mais c'est très peu exploité, la résistance française de la Première Guerre mondiale. Tandis qu'en Belgique, c'est plus une découverte. Et cette découverte de la résistance en 40 est importante parce qu'elle permet de justifier les entrées en résistance et d'expliquer vraiment ce que c'est que la résistance et pourquoi on résiste et contre quoi. En Belgique, il y a des réseaux qui vont se réactiver, tout simplement. C'était vraiment cette cohérence-là qui nous paraissait vraiment importante. Et la résistance belge a ceci de particulier, c'est qu'on les figures de la résistance belge sont deux femmes et sont liées à la Première Guerre mondiale. Voilà. Alors maintenant, ça évolue, on commence à mieux connaître les résistants de la Seconde Guerre mondiale en Belgique. Mais il y a eu beaucoup de travail pour édifier le travail de ces résistances, de ces résistantes dans les collèges, dans les lycées entre deux guerres. Du coup, il y aura beaucoup de résistantes en Belgique en 40 parce qu'elles disent « je veux faire comme Edith Cavell, je veux faire comme Gabriel Petit ». Et ça va donner notamment le réseau Comet, qui est un réseau d'exfiltration, parce qu'Edith Cavell, en 1914-18, elle exfiltrait des prisonniers. Et donc, beaucoup de femmes vont s'engager, ça sera un réseau avec énormément de femmes. Et il y a André de Jong qui sera officier et qui commandera le réseau.
Et donc là, par rapport à la France, le maréchal Pétain, vous installez votre village en France.
Oui.
Pourquoi ça vous paraît l'endroit le plus adapté pour raconter votre histoire?
Alors là, c'est une discussion déjà ancienne, mais on ne voulait pas, par exemple, s'installer en Normandie, parce qu'on s'est dit on va attendre 4 ans qu'il y ait le débarquement. On ne voulait pas être trop loin de la ligne de démarcation. On ne voulait pas être en ville. À Paris, ça aurait été très très contraignant d'un point de vue dessin déjà, et même des actions. Et donc, dans une région vallonnée, pas trop loin de l'Allemagne non plus, petit à petit, ça nous paraissait cohérent d'être là. Ligne de démarcation, près des montagnes, des maquis un peu plus importants. Donc, on voyait comme ça, instinctivement, que c'était bon. Spontanément, on a mis cette écluse triple dans le village, ainsi qu'un pont de chemin de fer, en se disant, ça justifie la présence d'une grosse garnison allemande. Et ça va nous permettre de faire des actes de sabotage ou de protection. Et effectivement, ça sert continuellement.
Ça s'est pensé dès le départ de la série?
Oui, mais en sachant pas exactement ce qu'on ferait complètement avec ça. Mais on plaçait ces éléments-là en disant ça nous servira. Mais par contre, le canal, le fait que dans le tome 1, on bouche le canal et tout ça, ces idées viennent naturellement. Parce qu'il fallait un beau gros acte de résistance dès le tome 1. Et après, on se fait confiance et c'est notre métier parce que l'éditeur nous avait pas dit on fera 9 tomes. Hein. On a 2 tomes devant nous et puis on plante des graines et puis
ça. Vous aviez que 2 tomes, vous prévoyez 2 tomes et finalement ça grossit.
Oui, mais on n'avait pas prévu de finir en 2 tomes, ça c'était certain. Et le tome 1, il est très lent. Donc on savait qu'on a un déroulement lent, mais l'éditeur ne signe pas pour un contrat de 10 tomes, c'est normal. Il faut quand même qu'il y ait... tout s'est passé très rapidement, dans le sens que la série s'est installée, ça n'avait pas été un franc succès dès le départ, mais elle s'est installée suffisamment pour être viable pour tout le monde, et on a pu continuer sans trop se tracasser, en continuant le travail quasiment au jour le jour et en créant cette cohérence en permanence. Parce que parfois on me dit ouais, t'avais pensé à tout est aligné. Je dis non, il y avait des opportunités possibles et je les ai exploitées au fur et à mesure. Donc il y a d'autres graines qui sont plantées que je n'ai pas encore utilisées, qui reviendront, qui serviront ou pas, mais oui,
oui. Oui, parce que là, le tome 9 c'est 1944, ça se termine à peu près hein, au moment du débarquement. Je raconte pas tout, mais le débarquement a eu lieu. On peut imaginer que la série va continuer après la fin de la guerre, parce que la résistance, finalement, elle continue après la fin de la guerre.
Oui.
Politiquement, c'est des choses importantes qui vont se passer, en Belgique et en France d'ailleurs.
Oui. La résistance, elle va porter fruit. Le Conseil national de la résistance propose un programme politique, un programme socio-économique. Et ce programme va être mis en place en France, et il est toujours en place aujourd'hui, puisque la sécurité sociale découle de là. Donc l'épilogue, évidemment il va y avoir le débarquement, la libération du village, ces choses-là, mais après, il y a encore beaucoup de choses à raconter, et c'est ce que les témoins d'époque nous disent, ils nous parlent beaucoup de l'après, parce qu'il faut reconstruire, il faut se pardonner, et il y a des choses à faire, donc ça peut être très riche. Donc là, j'ai beaucoup d'idées, et j'accumule ça depuis le tome 1. L'épilogue est vraiment très très important. Comme on a la chance d'avoir des lecteurs qui nous suivent, on peut prendre le temps de bien raconter les choses.
Je voulais revenir aussi sur les témoins, parce que vous avez rencontré beaucoup de témoins, d'après ce que j'ai compris, à la fois pour vous documenter, mais aussi parce qu'il y a, des anecdotes. J'imagine qu'il y a plein de choses qu'on peut piocher dans les souvenirs des anciens et des anciennes résistantes. Vous en avez rencontré beaucoup, et quand ils voient eux-mêmes l'aventure dessinée, comment ils réagissent ?
Alors, j'ai jamais pris vraiment tip-top des témoignages. Alors, j'en ai pas rencontré tant que ça non plus. Mais je n'ai pas de retour dans du sens où je me suis retrouvé... C'est mon action tip-top là ? Non, ça pas. Par contre, ils disent... La première réaction, c'est « Merci, c'est bien ». Il faut un travail de mémoire, c'est important. Parce qu'au début, on avait un peu peur de ça. On se dit de quoi on se mêle. En fait, ils ont très peur que l'histoire s'oublie. Ils savent très bien qu'ils sont dans leurs dernières années. Et donc, ils sont très satisfaits que des ouvrages remportent du succès parce que c'est important contre l'oubli. Et on a un enfant résistant, un ancien enfant résistant qui nous avait dit « J'avais peur avant de le lire, le tome 1, là, mais il dit, oui, c'est vraiment, je retrouve vraiment ce que j'ai vécu. » Et c'est Jean-Jacques Audu qui est cité d'ailleurs à la fin du tome 1. Et il y a un podcast où on raconte sa guerre. Et donc là, c'est gratifiant. Et on a pu faire une ou deux séances de dédicaces. Et c'est chouette parce qu'en fait, il s'installe, il signe dans les livres et tout. Et les gens sont contents de les voir. Donc ça, c'est très chouette qu'il s'approprie l'objet en lui-même et qu'il se retrouve dedans.
Oui, qu'il se remette il se met carrément dans l'histoire.
Ouais, exactement. Ouais.
Alors on a parlé d'histoire, des personnages, de l'histoire avec un grand H. Il faut aussi parler du dessin,
ouais.
Parce que le succès de la série vient du scénario et du dessin. Vous êtes complice depuis, je crois,
34 ans.
Ça fait longtemps, vous connaissez bien. C'est un dessin qui est très expressif, qui a l'air simple, qui ne l'est pas.
Non.
Et ça fourmille de détails.
Ouais.
C'est extrêmement documenté, mais il dessine ça avec une espèce d'élégance. On n'est pas noyé sous la documentation, on ne prend pas un cours d'histoire, ça coule sans problème.
Ouais. Ben Benoît Hers, le dessinateur, il est vraiment pleinement dans l'œuvre de sa vie. Il fait ce qu'il rêvait de faire et ce qu'il devait faire. Parce que là, il pose vraiment quelque chose qui restera pour lui et pour ses proches. Il s'exprime pleinement. Au niveau de la documentation, de la transposition de toutes ces documentations, des objets de l'époque et des décors, ben c'est juste extraordinaire. Pour un scénariste, avoir un dessinateur pareil, ben c'est vraiment un énorme tapis rouge. Je peux tout lui demander. Et son travail en dessin en noir et blanc et en couleur, c'est vraiment exceptionnel. Et il est d'une clarté. Il peut rendre acceptables des situations très dures que je lui demande de représenter. Et donc, on est amis, frères, comme les doigts de la main. Du coup, il y a une cohésion complète dans notre travail. Et ça, c'est vraiment très agréable. C'est très chouette d'avoir une longue coopération. J'allais dire collaboration, mais je préfère dire coopération quand je parle des enfants de la résistance. Là, on travaille sur le tome 10 et tout, et c'est chouette, quoi. Il me surprend en permanence, parce que... Bon, Il est vraiment très très fort. Il a un œil photographique parce qu'en fait il a très peu de doc. Il a tout dans l'œil. Il représente les choses. Ça fourmille de détails. Il raconte des éléments en permanence. En plus dans les décors.
Oui, parce que quand on regarde, il y a la vaisselle, les costumes, dans les appartements tout est reconstitué, mais sans que ce soit très oppressant ou agressif pour le lecteur. Ça c'est extraordinaire. On est vraiment replongé au cœur des années 40.
Mais oui. Mais il comprend très bien que chaque objet a été manufacturé, il comprend comment il a été fabriqué, il le voit, et on voit que cet objet a été fabriqué, que ce n'est pas juste une assiette de dessin animé des années 50, c'est une vraie assiette, et ça c'est vraiment exceptionnel. J'avais remarqué qu'il dessinait les bornes kilométriques défigurées, il y avait eu des coups de marteau dessus. Et je lui demande pourquoi tu fais ça, et puis il me dit, ah ben oui, mais en fait... À un moment donné, pour dérouter l'armée allemande en 40, on a commencé à casser les bornes pour qu'on ne voit plus les numéros des départementales et des nationales. Je me suis dit, excellent. Et donc, il y a des lecteurs qui l'ont vu, qui lui posaient la question. Et puis, pour finir, je l'ai intégré dans le scénario du tome 8. On en parle. Et du coup, je pioche dans nos propres albums des choses que je n'avais pas percutées et que je réutilise par après.
Oui, ce qui fait, bon, souvent, c'est le cas, mais je trouve que, particulièrement dans votre série, le dessin raconte autant que le scénario. Le dessin est un moteur de l'histoire autant que ce que toi tu écris dans les dialogues, dans les situations.
Ben oui, non mais clairement, il fait pas le travail à moitié. Il y a une scène dans la rue, il rajoute une charrette avec une dame assise dans la charrette et on comprend d'autres choses. Enfin, il raconte constamment des petites scénettes, des petites histoires. C'est absolument époustouflant ce qu'il fait. Et ce qu'il a d'exceptionnel aussi, c'est qu'il est très conscient qu'il est narrateur plus que dessinateur. Parce qu'une bande dessinée, c'est de la narration en permanence. Et il dit, je veux pas me faire plaisir en dessinant le cadrage que j'ai envie de faire. Si ça ne sert pas la narration, ça ne va pas. Et donc, il est au service, enfin mon service, hein, au service de notre histoire. Et je le trouve exceptionnel. Et donc, il s'empêche de briller. Il dit, je pourrais faire un truc qui aurait plus de gueule à ce moment-là, mais je ne le fais pas, parce que ce n'est pas bon pour la narration d'un point de vue global. Mais il est tellement brillant en permanence qu'en fait, pour moi, il brille de la première à la dernière case. Il fait un travail exceptionnel et c'est une grande chance pour moi, vraiment. Et ouais, voilà, je ne t'arrive pas d'éloge pour Benoît, évidemment.
Et l'autre chose qui est intéressant dans cette série, c'est que vous racontez tout. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont fusillés, brûlés, il y a des explosions. Il n'y a pas cette pudeur où on ne montre pas, finalement, bon, c'est pas horrible, hein, c'est pour les enfants. Il n'y a pas cette pudeur où on s'arrête avant la mort, avant les cadavres. Vous allez jusqu'au bout. Quelle est la limite que tu peux te fixer, si tu t'en fixes une d'ailleurs?
Alors, là où il n'y a pas de limite, c'est qu'on dit tout. Ça, c'est sûr. On raconte tout, on ne veut pas édulcorer. C'est pas parce que c'est pour les enfants qu'il faudrait faire une histoire soft de la résistance. Par contre, effectivement, le grand avantage du dessin de Benoît, c'est qu'il apporte la douceur qu'il faut. On décadre quand même. C'est inutile de montrer les corps calcinés, des détails. Voilà. Parce que si on va voir. Mais personne ne fait ça. Hein. Voilà. Si on voit le soldat Ryan, on se rappelle du débarquement. Rien que la bande-son, c'est insoutenable quand même, on ne peut pas aller beaucoup plus loin que ça. Ça n'a pas de sens de faire une BD d'horreur ou un film d'horreur sur des choses pareilles. Mais on peut tout raconter. On peut tout raconter. Je suis certain que des images suggérées vraiment provoquent des cauchemars chez les enfants. Mais on ne peut pas censurer ça. On ne peut pas le faire. La fin du tome 2 est très cruelle parce qu'il y a le papa de François qui est fusillé. Et d'anciens résistants nous ont dit merci d'avoir fait ça. Merci d'avoir fait, c'est super dur. On peut imaginer ce que ça doit raconter auprès des jeunes lecteurs, mais c'était le risque à payer, c'était le prix. Donc c'est bien de l'avoir fait. Alors cette séquence a fait pleurer. Beaucoup de lecteurs et de lectrices, et pas forcément les plus jeunes non plus, donc ouais, mais bon, voilà, c'était une séquence importante.
Ça veut dire que c'est, enfin, faut pas faire pleurer les gens pour rien, mais
non,
ça veut
non,
dire
non,
que
ça
c'est
sert
réussi.
À rien. Oui, mais j'étais surpris parce qu'en fait, en l'écrivant, j'ai pas pensé que je vais faire pleurer les gens. Voilà, j'ai pas pensé à ça. J'étais plus dans cette idée de raconter ce choix ultime que pour la liberté on va jusque là et qu'il assume ce qu'il a fait jusqu'au bout. C'était ça que je trouvais fort et beau à raconter. J'ai pas pensé que les gens pleuraient, j'étais dans autre chose et j'étais dans l'expression d'une sorte de rage comme ça. Mais très vite, avant que l'album soit, enfin en interne aux éditions du Lombard, des gens pleuraient déjà.
Ah oui?
Et même Benoît à la lecture du scénario. Il m'a dit, espèce d'imbécile, il me dit, tu m'as fait pleurer ton scénario. J'ai dit, oula. Et puis voilà. Si ça provoque de telles émotions, quelque part, tant mieux. On n'est pas dans quelque chose de misérabiliste où on cherche à tout prix à tirer des larmes. Ce n'est pas très intéressant de faire ça. Surtout qu'il y a d'autres émotions que pleurer. Avoir peur, on peut être en colère, on peut être fâché, on peut être perdu. Mais effectivement, ça a des moments importants de la série.
Ouais. Pour finir notre entretien, c'est une série aussi qui est utilisée par des profs, en tout cas des instituteurs, peut-être pas par des profs, parce que le programme de collège, c'est plus la troisième, donc ils sont un peu plus grands, ils ont un peu passé l'âge des enfants de la résistance, même si ça pourrait vraiment être utilisé. Qu'est-ce que ça... Une question bête, mais qu'est-ce que ça fait de devenir un support pédagogique et de rentrer dans les écoles? Parce qu'il y a quand même très peu de bandes dessinées qui arrivent à faire ça.
Alors, ça a été une très grande surprise et un très grand plaisir pour nous. parce qu'on pensait faire un ouvrage de transmission de la mémoire, et c'est très vite devenu un ouvrage quasiment didactique. La revue, la classe, l'a pris en main, enfin un gros dossier dès le départ. Alors ça fait très plaisir, parce qu'effectivement, ça fait travail de mémoire dans les écoles, les enseignants l'utilisent, et ça n'a pas l'air très casse-pied pour les écoliers de la lire. Donc c'est bien, c'est une obligation qui est acceptée facilement, mais on est présent dans beaucoup d'écoles, on le sait, et dans les collèges aussi, dans les CDI, on est fort présent. Franchement, ça fait plaisir. Ouais, j'ai pas été un très bon écolier, donc c'est chouette, c'est une petite revanche de vie. Mais j'ai été dans beaucoup d'écoles et dans beaucoup de collèges ces dernières années, et c'est assez émouvant de voir les enfants qui sont par ça et de voir le travail des enseignants. Et j'ai vraiment passé beaucoup de temps avec des enseignants, et vraiment chapeau, parce qu'ils font un boulot énorme. Ils font un boulot de citoyenneté très important en permanence, alors qu'ils sont critiqués en permanence. Vraiment, voilà, moi j'ai eu un rapport compliqué avec l'école et les enseignants, mais quand on voit ça de l'intérieur, vraiment bravo, bravo, parce qu'ils font un vrai travail sur le terrain. Je les ai vus au lendemain parfois d'événements graves, parce que les enfants voient tout à la télé, devoir réexpliquer, recadrer les choses. Ils ont un travail de citoyenneté très important, et il faut vraiment les soutenir là-dedans, parce qu'on critique énormément l'enseignement et les profs, alors qu'ils ont un travail essentiel.
Et quelles questions posent les enfants quand tu vas dans des classes comme ça? Qu'est-ce qu'ils demandent? Qu'est-ce qu'ils veulent savoir?
Il y a des questions sans fin. C'est très impressionnant. Les mains... Enfin, je n'ai pas à présenter, j'ai qu'à suivre les mains et à répondre aux questions. Ils se posent énormément de questions sur ce qu'ils auraient fait eux-mêmes. Ils croient que ces personnages ont réellement existé. Ils nous demandent vraiment s'ils ont vraiment existé. Et ils demandent quand sortira le tome suivant. C'est difficile de synthétiser les demandes. En tout cas, on sent une empathie très importante envers l'action de ces trois enfants. Et on sent qu'ils ont envie de comprendre, de savoir ce qui s'est passé dans leur pays. Il n'y a pas si longtemps, c'était leurs arrière-grands-parents. Et ils ont vraiment envie de comprendre ce que c'est qu'être privé de liberté. Bah, ils n'ont pas envie de la vivre, mais ils se disent « Waouh, nos arrière-grands-parents ont connu ça. » Il y a encore quand même pas mal de gens qui étaient enfants, qui sont en vie. Ils ont 90 ans aujourd'hui. Donc, beaucoup de gens de 90 ans en très bonne santé. Et je pense que ça a vraiment initié beaucoup de discussions dans les familles. Moi, je trouve ça très intéressant qu'ils soient aussi curieux de cette époque-là, qu'ils se posent des questions sur la collaboration, que ça a glissé quand même, et qu'ils soient informés et qu'ils soient attentifs au monde aujourd'hui, parce qu'effectivement, ça peut glisser, quoi.
Faut dire aussi qu'à la fin de chaque tome, il y a un dossier historique.
Oui.
C'est toi qui les écris.
Oui.
Avec une sorte de lexique, en tout cas une chaque événement, chaque idée est expliquée très simplement avec beaucoup d'iconographie. Donc là aussi, les enfants, s'ils veulent en savoir plus, ils ont aussi les moyens de s'informer encore un peu plus loin que la bande dessinée. Il y a le plaisir de l'aventure, et après on peut se plonger dans l'histoire un peu plus dur, entre guillemets.
Oui, un peu plus dur, je vois bien, c'est là où ils se rendent compte que en fait, c'était vrai, cette histoire, ce que j'ai lu. C'est du vrai, et je reconnais des noms et des photos de villes et de villages de France. Et il y a un lien entre la bande dessinée et le réel qui, je pense, est très fort à ce moment-là, quand on bascule de la BD au dossier. Et là, ils se disent, mais oui, mais en fait, tout ça, c'est vrai. Et tout ça, ça a vraiment existé. Et ça, c'est important. Ça, c'est vraiment important. Alors, on nous lit dès 8 ans. Après, on nous lit à 10 ans, 12 ans, 14 ans, et je suis sûr que les jeunes lecteurs vont relire et redécouvrir et comprendre des choses autrement. Et ça, c'est vraiment important. C'est ce que je dis souvent aux parents, c'est pas grave si votre enfant ne comprend pas tout. C'est pas grave, il y reviendra, et puis il comprendra autrement. Rappelez-vous, vous, quand vous lisiez des bandes dessinées, quand vous étiez petit, vous ne compreniez pas tout. Ah, je lisais Tintin, je ne comprenais pas tout, et je me suis dit par après, ah oui, c'est comme des jeux de mots.
Oui.
Il y a des jeux de mots qu'on n'a pas vus, puis on les redécouvre par après dans Astérix en permanence. Je me dis, mais oui, c'est juste ça. Je me disais bien que cette phrase était bizarre et quand j'étais petit, je comprenais pas, mais là, il y a un jeu de mots.
Oui, parce que dans le tome 9, il y a des choses compliquées, par exemple la milice, la trahison. Voilà, il faut être à 8 ans, quoi. C'est très très compliqué de comprendre ça, quoi.
Oui, certainement que la série gagne en complexité et que les lecteurs les plus jeunes vont certainement un petit peu plus passer au travers, mais ils vont être captivés par l'action et les événements et les émotions que ressentent nos personnages, parce que c'est très important de voir comment ils réagissent. Après, toute la richesse, ils le découvriront par après.
Oui, tout à fait. Ouais. Mais je te remercie de ce moment passé avec moi pour parler de cette série insensée des Enfants de la Résistance. Donc le tome 9 vient de sortir, c'est aux éditions du Lombard.
On est autour de 11,50€ à la louche. Merci Stéphane.
À bientôt.
À bientôt.
Bulle d'histoire. Bulle d'histoire avec Stéphane Dubreuil.
Waouh !
Une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30.